Eh ben, on y va, en voiture. Bonjour et bienvenue dans Where is Brian? Alors avant de diffuser l'entretien avec Monsieur Jean-Paul Rivière, je tenais à faire deux précisions. La première, c'est que donc Jean-Paul Rivière m'a reçu au siège de sa société, il vous en dira plus, et que c'était un petit parcours du combattant au niveau accessibilité. Et donc je le remercie, Monsieur Jean-Paul Rivière, parce qu'il a bien voulu quand même m'aider à monter quand même les marches en colimaçon pour accéder à son bureau dont il y a une partie où il n'y a pas de rampe. Et je voudrais me remercier également des gens qui m'ont aidé à monter les premières marches qui n'étaient pas adaptées puisqu'il n'y avait pas de rampe. Deuxième chose, à titre d'information, parce que comme vous le savez, l'accessibilité des infrastructures, notamment dans le cadre de l'Armada, c'est un sujet de prédilection, c'est très important pour moi, c'est le fer de lance de ma ligne éditoriale. Cependant, dans le cadre de cet entretien, Monsieur Jean-Paul Rivière et son équipe ont décliné de faire des commentaires sur ces sujets à ce stade, à titre de précision. Donc ce n'est pas abordé lors de l'entretien, mais gageons qu'ils accordent à la question toute la considération lors d'une communication ultérieure. Voilà, bonne écoute. Bonjour Jean-Paul Rivière.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Armada. Vous avez succédé en 2020 à Patrick Herr, à la tête de cette organisation. Et donc la première question que je pose à tous mes invités, Jean-Paul Rivière, c'est « Where is Brian ?» On est où ici?
Ah bah, ici, vous êtes pas l'Armada, vous êtes au siège de Groupe Altitude, qui est ma société, parce que je suis toujours le PDG de ce groupe, bien que ce soit ma fille qui me succède, qui est deux bureaux plus loin là, qui est là aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu sa voiture. Et on m'avait mis le rendez-vous podcast avec vous, et il s'est trouvé que les rendez-vous qui se sont mis autour sont des rendez-vous d'affaires, et donc je suis effectivement dans les bureaux de la société Altitude.
Et donc l'histoire un peu de l'endroit où on se trouve. Donc cette société, vous l'avez créée en 90, mais vous avez l'âme d'un entrepreneur depuis très longtemps. Alors pour résumer, vous me dites si j'ai bon, hein. Vous avez créé une entreprise, vous avez commencé salarié, hein, et vous avez commencé salarié, étudiant, puis après vous avez créé une société de vente d'ordinateurs.
Oui. Au Havre,
ouais, c'est ça. Vous avez créé donc cette société de vente d'ordinateurs. Vous décidez de la vendre quelques années plus tard, et avec en gros ce pécule, vous demandez à l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms, d'obtenir la licence WiMAX, qui ne savait pas quoi en faire.
C'est ça? On est d'accord. J'aime bien rappeler que moi, j'ai perdu mon père très jeune, mais en fait, j'ai été boursier, j'ai fait mes études boursier, donc la France sociale, c'est quelque chose que je remercie et qui m'a évidemment aidé. Et cette première société, je l'ai un peu créée avec 1 euro ou un peu plus, à l'époque c'était des francs, mais ouais. Bon, voilà. Effectivement, je l'ai vendu dans de bonnes conditions, et après, bah, ça tout devient un peu plus facile, quoi. Oui. Quand on a un peu d'argent, tout devient un peu plus facile. Donc, l'aventure de mes relations avec le gendarme des télécoms, l'ARCEP, ça a été d'abord une licence, donc personne n'en voulait, donc je l'ai obtenu dans un protocole qui s'appelle de gré à gré. On a démarré les télécoms sous cet angle-là. Maintenant, on est très axé sur la fibre, en fait.
Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots simplement c'est quoi l'Armada?
Simplement, c'est un espace de rêve, hein, déjà. L'Armada, c'est la plus grande réunion de grands voiliers historiques. C'est une fête qui s'est déroulée déjà 8 fois et qui existe depuis 1989. Voilà, en deux mots, c'est les gens aiment l'armada, on y vient sur les quais, rêver, voir des beaux bateaux, les visiter, passer un bon moment. C'est avant tout une réunion familiale où on vient effectivement en famille à l'armada. Et c'est la plus grande manifestation mondiale de grands voiliers.
D'accord.
Et la deuxième étant Amsterdam.
Bien sûr. On estime à peu près une cinquantaine de bateaux qui sont attendus pour la prochaine édition,
oui,
c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Une cinquantaine de bateaux, dont 45 grands voiliers, quoi. Enfin, entre 45 et 50, voilà un petit peu. Il y en avait 45 en 2019.
D'accord. 45 en 2019. Mmh. Vous avez, en fait, lancé le 8 juin dernier le compte à rebours, à l'occasion de la Journée, oui, mondiale des océans, des 1 an de l'armada à J-365. À cette occasion, vous avez confirmé, donc avec le DARM le dit, les 13 premiers bateaux qui ont été confirmés. On reste sur cette tendance actuellement. Qu'en sera-t-il? On visait toujours les 50 à peu près. Où on en est actuellement?
On a dépassé la trentaine.
D'accord.
On a dépassé la trentaine, et en comptant l'ensemble des bateaux français, etc., on est peut-être à 38 là. Hein, donc on, voilà, c'est, je pense qu'on...
Vous attendrez
en fin juin, on aura la confirmation qu'on sera 45, quoi.
Qu'on
aura
45 bateaux. On sera 45. Mmh. Édition très centrée sur les questions, environnementales. Vous avez dit que l'édition 2023 devrait être l'édition la plus écologique. Ça se manifeste en fait comment, simplement?
Alors, l'armada, ça reste l'armada. Ça reste une réunion où on vient rêver de voir des grands bateaux, les visiter, passer un bon moment en famille, avec des amis, et éventuellement voir un concert après. L'armada reste l'armada. Un président d'une grande organisation comme ça ne peut pas organiser cette manifestation sans mettre une énergie considérable pour diminuer son empreinte écologique. Donc c'est sous cet angle-là qu'on met beaucoup d'énergie pour diminuer l'empreinte écologique. Ça ne change pas l'esprit de l'armada. C'est juste qu'on doit... moi j'avais une voiture diesel, je passais une voiture électrique, voilà.
D'accord.
Chaque individu doit diminuer son empreinte carbone. Son empreinte environnementale, ça dépasse largement le carbone. Et qu'est-ce qu'on a mis en œuvre donc dans l'armada pour diminuer cette empreinte? Beaucoup d'énergie sur les plastiques. Il y aura quasiment plus de plastique à bord. Enfin, sur les. Mais par exemple, il y a des contraintes. Un exemple qui est pas encore gagné, c'est vous savez qu'il y a des fêtes, des réceptions sur les.
Bien sûr.
Voilà, sur les bateaux. Et là, mais entre les deux, les bateaux sont accessibles au public, donc les, oui, traiteurs ont des transportent quasiment une tonne, hein, oui, voilà. Et ils transporteront toujours des bouteilles de 2 litres de plastique, parce que c'est le plus modèle. C'est pour monter un contre-exemple. Mais par contre, c'est servi dans ce qu'on va appeler des Arma Cup, hein, donc des godets en plastique ou en verre, et il y aura plus de plastique à la vente, en tous les cas, sur l'ensemble
pour
de
l'armada. Pour les festivaliers, pour ceux qui viennent.
Pour les festivaliers, voilà. Donc, donc il y a un exemple où on met beaucoup d'énergie, et on a signé une convention de manière très très positive avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que on a signé une convention, on va signer une convention avec la métropole, qui est partie prenante, parce que c'est sur son site, mais aussi avec le département, parce qu'il y a toutes les mairies lors de la descente de la Seine.
C'est ça.
On signe aussi une convention développement durable avec chaque bateau.
Hein, oui.
Et tout le monde... Alors, c'est des conventions style COP21, c'est-à-dire que c'est une déclaration de bonne intention.
Oui.
Il n'y a pas un contrat
pas
derrière ça, une pénalité.
Pas...
Ouais. Mais c'est signé avec enthousiasme, et on se met dedans des objectifs.
Hein.
Ouais. Et globalement, les objectifs vont être respectés. Donc, et tout ça, c'est... Bon, je pense qu'il y a une belle conscience maintenant de tous ces acteurs qui ont tous à cœur, en plus de un bateau, ça reste un bateau, un bateau qui représente un pays, ça reste un bateau qui représente un pays, mais tout le monde a à cœur de diminuer son empreinte environnementale, et donc on a en total une vingtaine d'accords, ou une trentaine d'accords à peu près.
C'est ça, et bon. D'après ce que moi j'ai vu, donc l'accord en fait que vous avez trouvé avec la métropole, ça veut dire que vous estimez à peu près 90% d'arriver à baisser déjà avec plus de notamment de mobilier urbain, de poubelles ou des choses comme ça pour arriver. Enfin, la métropole vous aidera à réduire les déchets, parce qu'il y avait, je crois, 600 tonnes de déchets produits à l'édition 2019, c'est ça.
Le tonnage, vous me posez une colle, donc pas de problème. Cette initiative, c'est surtout l'Armada, parce que c'est un site totalement exploité par l'Armada. Et par contre, inversement, ce qui se passe en dehors du site de l'Armada, c'est-à-dire dans le reste de la ville, c'est un problème métropole.
Bien sûr.
Et donc, on a deux actions très importantes. Ce côté déchets, hein, c'est d'une part de les trier, donc on les trie en quatre catégories, hein, les déchets alimentaires, les plastiques, les papiers, et puis une quatrième catégorie qui me pose un problème, c'est les déchets qui sont, enfin oui, c'est donc du coup les déchets qui sont non alimentaires, non plastiques et non papiers. Voilà. Et donc on a tout un système de bennes. Au lieu d'avoir une benne ou deux bennes, on a un système à quatre bennes, on a un système à quatre poubelles, on a un ensemble de systèmes comme ça. Et là aussi, on a des associations qui nous aident. L'Armada embauche entre guillemets d'autres associations, et on a un relevé des poubelles très régulier. Et pareil, l'ensemble des exposants se sont engagés à trier en quatre catégories. Et donc, on va avoir un tri particulièrement efficace. Et voilà, on est en liaison avec le CIVOM de ce côté-là pour être très efficace sur cette partie déchets. Mais notre initiative ne s'arrête pas aux déchets. Par exemple, on va connecter un maximum de bateaux en électrique. Donc on a une initiative, un certain nombre de quais sont électriques. On a pris contact avec des start-up qui font des groupes électrogènes à l'hydrogène. On va voir si on arrive si c'est au point. Donc là, je peux pas encore vous répondre là-dessus, et si en termes de sécurité c'est correct aussi, parce que l'Armada est avant tout organisée dans un respect très strict des problèmes de sécurité et de sûreté, quoi.
Mais justement, alors, en deux mots pour conclure cette première partie courte, qu'est-ce que vous diriez, parce qu'on entend, alors c'est un événement plus large, hein, bien sûr beaucoup plus large, mais on entend notamment depuis l'organisation future des Jeux Olympiques à Paris en 2024, et là avec les débats sur la Coupe du Monde au Qatar, des voix qui s'élèvent pour dire, en gros, il n'est plus ou moins possible d'organiser des événements de grande ampleur ou de moyenne ampleur sans polluer, et donc que ça doit se restreindre. Mais vous leur répondez quoi en deux mots?
Je leur réponds que je sais pas si c'est en deux mots. Si on prend quelques mots, on regarde les 70 ans qui se sont passés. En Europe, on a tous les pays ont réussi la santé et la retraite. Alors, avec plus ou moins de retraite, plus ou moins de santé, selon les positions qu'on a. Mais globalement, on a vécu 70 ans où on a réussi la durée de vie a augmenté de 10 ans, etc. Bon. Mais tout ça s'est fait au détriment de la planète. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait attention à notre planète. Bon. Le problème qui nous occupe maintenant, c'est de continuer à vivre en sauvegardant cette planète. Mais si vous diminuez les choses, ça va pas avancer. Il faut continuer à augmenter la durée de vie, continuer à augmenter aussi, enfin avoir des bonnes retraites, etc. Voilà. Mais tout ça dans un environnement économique qui le permet. Donc, les grandes manifestations, c'est des manifestations qui font rêver et qui sont indispensables à la santé, au moral d'une ville. L'Armada donne le moral à Rouen.
Oui.
Il n'y a aucun problème. Et si vous supprimez des manifestations comme ça, eh ben, vous aurez des gens plus maussades. Il faut absolument faire du développement durable. Le chemin est difficile, mais en gardant le moral et en augmentant notre qualité de vie. Voilà. Et donc, le chemin est difficile. Ouais. Le chemin est difficile, incontestablement.
Mais de toute façon, c'est exactement ce qu'on a vu. Hein. involontairement avec la crise Covid, quand il n'y a plus d'événements, le moral des gens est en berne.
Voilà. Personne n'a envie de vivre dans une crise Covid. Personne n'a envie de vivre avec l'absence de manifestations, l'absence de convivialité, et du repli sur soi. Personne n'a envie de vivre ça. Donc, le chemin du développement durable est difficile. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas l'attaquer et donc on essaye. On a moi j'ai un certain nombre de vice-présidents, on a un vice-président qui est dédié à cette activité là et on est content de ce qu'on fait, on détaillera au fur et à mesure, quoi.
Et donc pour terminer, donc c'est couplé bien sûr au concert de la région où il y a deux grands artistes qui vont venir, qui vont venir se produire. Et je vais y revenir. Il y a aussi ce concours de nouvelles qui a été lancé par le parrain de cette édition, Michel Bussy, qui est le troisième auteur le plus lu en France, très prolifique. Et ce concours de nouvelles donc se fera en lien avec les écoles, mais je crois que tout à chacun d'ailleurs peut participer en dernière catégorie. De tout à chacun pourvu qu'on écrive en français, hein, c'est ça. Et il y a aussi donc des spectacles de rue, hein, qui vont parcourir toute la ville. Ça sera vraiment une belle fête et une fête typiquement.
Voilà, donc c'est effectivement la composante que je voulais rajouter à cette très très belle manifestation qui, en, je le répète, l'Armada 2023 et le reste l'Armada, mais j'ai souhaité mettre un peu de culture populaire un peu plus dans l'Armada. Alors ça tombe bien avec Rouen, capitale de la culture, hein, mais c'était pas du tout calculé dans ce sens-là. Je pense que c'est bien que l'Armada, on va en comprendre de manière simple ce que c'est que ces voiliers-là, et puis de comprendre un peu l'histoire de Rouen par rapport à la mer. Tout naturellement, j'ai lu le livre de Michel Bussy sur « Mourir sur scène ». Et oui, il parle avec enthousiasme de l'Armada, donc j'ai pris contact avec lui, et ça s'est très très bien passé. Il a accepté très spontanément d'être le parrain de l'Armada, et je peux vous dire que c'est un parrain actif.
Oui, c'est pas quelqu'un qui se rend...
C'est pas un consommateur, Michel, c'est pas un consommateur. C'est même lui qui relance dès qu'il voit que les nouvelles s'avancent pas, il relance dès que tout ça avec enthousiasme. Donc on a effectivement deux initiatives avec Michel. La première, c'est un concours de nouvelles, et la deuxième, c'est 10 scénettes de théâtre, 2 qui sont sur l'Armada et 8 qui sont sur la métropole. Si on démarre par ces scénettes de théâtre, on a donc un petit concours, parce qu'on veut que ce soit amateur. Donc c'est on fait ça avec un syndicat, donc je vais pas vous donner le nom, mais qui regroupe les troupes amateurs en région. C'est elle qui nous coordonne un petit peu pour vérifier que ce soit des amateurs et qui nous aide à faire la promotion pour trouver nos troupes. Et on trouvera les 10 troupes, donc ça peut être aussi un orchestre, ça peut être des choses comme ça. Le thème, simplement, c'est que ça doit être la mer. Oui. Hein, pas forcément l'Armada, mais la mer. Donc on va parler de la mer.
Il faut que ces troupes soient normandes spécifiquement, ou
si possible normandes, c'est l'esprit. C'est possible normandes. Il y aura peut-être une exception, je sais pas. Moi, je fais pas partie du comité qui choisit les troupes, mais c'est bien des troupes normandes qui parlent de la mer. Hein, et derrière ça, elles doivent nous présenter. Il y a un cadre de présentation. Elles doivent nous présenter ce qu'elles veulent faire. Et donc, elles vont tourner sur les 10 scènes. Il y a des troupes qui tournent sur les 10 scènes. Et le but, c'était aussi d'emmener un peu la fête de l'Armada dans les villes de la métropole qui étaient intéressées. Ça, c'est la première initiative. La deuxième initiative, c'est un concours donc la première a été faite un peu avec la métropole. La deuxième est faite avec le département. Et là, c'est aussi une idée de Michel, hein. Donc Michel a écrit 4 premières lignes. C'est une personne qui arrive à 6h du matin au lever du soleil, qui décrit les bateaux. Alors ça, c'est Michel qui a écrit ça et qui dit, je repense hier soir et qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui, et hop, ça s'arrête.
Ouais, c'est le fameux incipit, ouais, c'est ça.
C'est les trois phrases de présentation qui sont merveilleusement écrites, hein, bien sûr. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé la veille. C'est les écrivains...
Les écrivains en herbe.
En herbe. Même s'ils sont âgés, hein, enfin, c'est les écrivains débutants qui vont dire, donc ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une manifestation, ça peut être un poème d'aventure, tout est permis.
Ça permettra même à des gens plus âgés, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est super intéressant, permettre à des gens plus âgés, finalement, avec l'écriture, je sais, parce que j'en suis, j'aime écrire. Mais je suis plus jeune, mais de retrouver finalement une part d'enfance.
Exactement.
Un émerveillement, mais qui est en lien finalement avec...
Il y a beaucoup d'adultes qui ont envie d'écrire.
Voilà, qui est en lien finalement, parce que moi je trouve ça formidable, parce que finalement il y a une espèce de connexion entre l'émerveillement de ce qu'on voit à travers les bateaux, les voiliers, encore plus pour ceux qu'on a marin, on y reviendra, mais en fait moi j'ai l'impression un peu de revenir en enfance quand j'écris quelque chose. Donc ça permet à tout à chacun, et je pense que dans ce contexte actuel c'est nécessaire, non?
Oui, dans le contexte actuel, c'est nécessaire, et c'était aussi l'occasion de lier les écoles à l'armada. Hein.
Oui.
Donc en fait, il y a quatre catégories. Hein,
oui.
Toutes débutantes, mais bon, il y a les catégories des primaires, où là, on propose que le maître des écoles, on propose une réponse par classe. Hein, c'est-à-dire que c'est la classe qui fait une nouvelle. Et voilà. Donc après, il y a le collège, où là, c'est ouvert, où c'est chaque élève qui fait sa nouvelle, où c'est une classe qui fait une nouvelle. Le lycée, c'est des individus. Et la quatrième catégorie, donc, c'est tout un chacun, l'ensemble des Normands. Et là, effectivement, c'est un concours individuel, quoi. Donc on va faire quatre catégories et quatre vainqueurs, parce qu'on va pas comparer la nouvelle probablement assez bien aboutie d'un adulte, disons que
bien
le vainqueur
sûr.
Adulte bien aura quelque chose, une nouvelle un peu aboutie, avec une nouvelle faite dans une classe primaire, qui bien sûr n'a pas le
oui, et puis je
la
crois
part de rêve et de beauté, mais qui ne sera pas aussi approfondie.
Je crois que en plus en primaire, donc on est accompagné par son professeur dans le cadre de cet exercice. Hein,
oui.
Non, oui, mais effectivement, donc du coup, ça sera un jury présidé par Michel Bussy, décernera qui aura la bonne nouvelle, meilleure nouvelle.
Voilà. Alors techniquement, si les gens sont intéressés, faut qu'ils aillent voir le site armada.org, et là ils verront les détails, les professeurs des écoles, les professeurs, les individus adultes. Tout le monde peut aller voir la chose, et c'est aussi diffusé en interne au rectorat, dans une banque.
Et puis de toute façon, comptez sur nous pour le relayer.
Merci,
fera,
oui,
on
tout
le,
à
on
fait.
On le
oui.
fera avec une joie non
voilà.
dissimulée
ben,
pour cet événement.
Vous, ouais.
Sans transition, Jean-Paul Rivière, si vous le voulez bien, nous avons déjà commencé à en parler au début de cet entretien, la première question. Mais concrètement, quelles sont les activités principales d'Altitude, votre entreprise?
On a deux grandes activités chez Altitude. La première, effectivement, c'est les grands intranets nationaux en général. Donc, l'un des clients qu'on vient remporter, par exemple, c'est Pôle emploi. On connecte l'ensemble des agences Pôle emploi de France. On a comme ça aussi un marché classé général. On a un certain nombre de marchés avec le groupe Auchan. C'est donc des grands intranets. Donc, ça, c'est une première activité. Une deuxième activité qui est encore plus grosse, c'est l'installation de la fibre en France.
Oui.
Hein, le cuivre a été installé par l'État, a été payé par l'État à l'époque avec France Télécom, à l'époque où France Télécom était une société d'État, comme la SNCF, voilà. Et là, la fibre, en fait, est installée par les privés. Et donc, nous avons 5 millions de prises en France. Et ces prises-là sont relouées aux quatre opérateurs. Voilà. Donc, il y a 22 millions de prises en France. Nous, on en a 5 millions. Orange en a une douzaine, voilà. Et là, voilà comment ça s'organise. Donc, on n'est pas connu du grand public puisque ces prises, on les reloue. On les reloue aux quatre grands opérateurs qui sont Orange, SFR, Bouygues et Free. Hein, et voilà, voilà un petit peu comment ça s'organise. Les gens ne savent pas souvent qu'ils sont sur des prises fibres et des réseaux et fibres que l'on possède.
C'est ça qui est justement intéressant et c'est surtout aussi... Alors, vous le faites de manière involontaire et c'est aussi pour ça que c'est bien de vous recevoir. C'est-à-dire que ce que j'aime bien en fait faire, moi, c'est de rencontrer des personnes qui permettent ensuite d'expliquer au grand public en fait ce que les personnes font et bien sûr dans des détails enfin non professionnels un peu comment la manière sont faites comment de la manière les choses sont faites et les gens peuvent se construire en fait et donc finalement sans mauvais jeu de mots vous avez toujours un peu la fibre entrepreneuriale c'est le cas de le dire
Oui, je pense que c'est dans la, si vous voulez, une anecdote quand j'ai connu ma femme, donc qui est toujours ma femme, à l'époque c'était ma fiancée, on descendait dans la voiture de mon beau-père et à l'époque j'étais au début de la terminale et je disais si je rate mes études souvent je disais si je rate mes études je serai marin mais là je disais autre chose et si je rate mes études je j'installerai un restaurant sur le bord de la route. Là, mon père, ça lui plaisait pas. Hein. C'était pas le genre. Il voulait pas un genre comme ça. Mais c'était une initiative d'entrepreneur. Oui, c'était une initiative d'entrepreneur.
Côté en fait de la mer. Finalement, j'ai envie de vous dire, quand on s'appelle Rivière et qu'on est né à Agadir, ce qui est votre cas, on est un peu prédestiné pour ça, non? On est un peu prédestiné au bord de.
Oui, on peut le dire comme ça. Enfin. Ça vient de mon papa qui était déjà, enfin mes parents étaient déjà des aventuriers quelque part pour aller s'installer avec deux vélos et deux valises à Agadir et avoir trois enfants là-bas, il fallait déjà avoir un peu une âme d'entrepreneur et mes parents sont rentrés en France, c'était le début de la voile et mon papa s'est passionné pour la voile et donc a acheté un petit bateau de 8 mètres à crédit hein, parce que enfin je me souviens très bien à l'époque on était logé par les Suédois français et la grosse réflexion c'était de savoir s'ils pouvaient se payer le bateau ou pas voilà et donc c'est lui qui m'a donné l'âme d'aller voguer sur l'eau
et dès le plus jeune âge c'est-à-dire qu'en fait
à 10 ans
à 10 ans voilà et en fait vous arrivez en Normandie. Quand vous êtes né à Agadir et vous arrivez en Normandie à peu près à partir de quand?
En rentrant d'Agadir, mes parents ont demandé à rentrer donc dans le cadre des ciments français. Donc au début, on habitait Mantes-la-Jolie et mon père faisait un peu des chantiers. C'est à l'époque qu'on construisait des cimenteries, donc on faisait des chantiers dans toute la France. Et donc après, moi, j'ai habité mon papa qui travaillait à Paris, après les chantiers, il a fini par travailler à Paris aussi. Et puis donc on habitait le Valois et la Normandie. D'abord, j'étais pas très bon élève et donc je suis arrivé en Normandie par l'internat. C'est-à-dire que j'ai fait Vernon. Après Vernon, j'ai fait Deauville. Et donc j'étais en terminale à Deauville. Et donc j'ai connu la Normandie par l'internat et par la Seine pour y revenir. Et donc en tous les cas, j'ai connu donc mon épouse parce qu'elle était normande aussi. Et voilà comment je suis arrivé en Normandie. Mais j'ai connu Rouen par la Seine. J'aime bien l'expliquer.
Oui, c'est bien sûr. On va revenir à l'Armada si vous le voulez bien.
Oui.
Donc en fait, vous succédez à Patrick Herr, donc le fondateur de l'association l'Armada de la Liberté, puisqu'on rappelle que l'Armada Armand, ça existe depuis 1989. Et il y a eu, je vais le rappeler, donc sans discontinuer, 7 éditions qui ont lieu donc tous les 4 à 5 ans. C'est à peu près ça.
Voilà, 4, 5, 6 ans. Il y a une 6 ans. En général, c'était 5 ans. Maintenant, on va essayer de les faire toutes les 4 ans.
Toutes les 4 ans, c'est un engagement que vous prenez.
Oui.
D'accord.
Mais l'Armada est financée à 40% par les collectivités, donc c'est aussi. Mais c'est ma volonté, je pense, convaincre les collectivités de faire ça tous les 4 ans.
D'accord, donc sans trop en dire, mais on pourrait imaginer vous donner rendez-vous en 2027, en juin 2027.
Oui,
c'est ça. C'est votre souhait. Bah, c'est dit. Et le rendez-vous sera déjà pris. Et bah, on sera toujours là. On sera toujours là avec ravissement.
Et ça sera entre le 10 et le 20 juin 2027, vous voyez, même précisément.
Ah, d'accord. Voilà une information. Je voulais revenir. On a déjà commencé un peu à en parler, mais je voudrais un petit peu pousser parce qu'il y a des questions que je n'ai pas pu vous poser à ce sujet. D'un point de vue environnemental, donc vous m'avez expliqué que effectivement, vous avez mis en lien, vous êtes mis en lien avec, puis il y a toute une batterie d'entreprises et d'acteurs pour rendre donc cette Armada 2023 la plus écologique. Je crois aussi que vous aviez vous êtes en train de constituer une équipe de 43 bénévoles, me semble-t-il, pour notamment faire de la sensibilisation auprès des festivaliers et faire aussi du ramassage et d'autres activités et d'autres missions peut-être plus largement.
L'Armada est fonctionne avec deux permanents ce qui et puis à la pointe 400 bénévoles. Et au moment de voilà, dont des bénévoles comme moi qui sont presque à plein temps et même un certain nombre de bénévoles comme ça qui sont très très engagés et puis des bénévoles qui seront voilà et donc chaque division donc il y a une équipe concerne la communication, il y a une équipe qui concerne l'animation donc l'ensemble des activités du site. Et il y a une équipe liée au maritime, hein, qui donc notamment tous les fossiles et liaisons, parce qu'à chaque bateau on met des bénévoles qui font la liaison pour vérifier que les passages entre les visites publiques, les traiteurs, et puis aussi que les marins soient bien accueillis, que le capitaine soit bien accueilli, donc les fossiles et liaisons. Et on a donc une équipe qui se concerne le développement durable. Donc il y a peut-être le chiffre de 43 qui est passé, mais bon, au jour d'aujourd'hui, hein, il y a une dizaine de personnes qui travaillent, et je pense qu'il y aura facilement effectivement 43 personnes pour s'occuper notamment de la partie déchets, quoi.
Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous êtes aujourd'hui donc c'est votre fille qui est directrice générale de l'entreprise. Vous dirigez, vous êtes toujours patron de la holding, mais vous dites que vous êtes sur l'Armada à plein temps.
Presque.
Vous êtes quoi? Vous êtes un surhomme? Vous avez un emploi du temps très chargé?
Non, vous savez, que ce soit l'Armada ou que ce soit l'entreprise, on m'a déjà posé la question. À l'époque, je m'occupais de l'Armada, pas de l'Armada.
Parce que vous travaillez sur des éditions précédentes, même si vous n'étiez pas président.
Non, pas beaucoup, non. Mais avant, bon, j'ai fait des activités sportives, j'ai fait des tâches.
Est-ce que vous avez pas appelé par hasard un jour en vous disant, on a pensé à vous. Vous avez quand même travaillé ou un lien. Vous avez fait d'ailleurs, vous avez fait Paris-Dakar. Moi, j'ai découvert ça d'ailleurs. J'ai découvert ça récemment. je le savais.
Oui, j'ai fait pas mal de voiles, mais à un moment donné, où pendant l'éducation de mes enfants, j'ai pas fait de voile, et donc je m'étais rapatrié entre guillemets sur le désert. Donc voilà. Et bien, pour revenir à votre première question, le secret d'un entrepreneur ou c'est de savoir s'entourer et d'avoir, savoir communiquer l'enthousiasme pour avoir des gens qui font le travail avec vous. Donc à l'Armada, il y a 7 vice-présidents qui sont, tous à fond. D'ailleurs, dans l'un des vice-présidents, il y a Yvon Robert qui est l'ancien maire de Rome. Oui. Et tout le monde a à cœur de faire une belle Armada. Et si on y arrive, c'est justement parce qu'on est en équipe. Et du côté entreprise, c'est exactement. Maintenant, moi, l'entreprise, j'y passe moins d'une journée par semaine. Hein. C'est ma fille qui est à 120% et moi beaucoup moins. Mais à plus l'entreprise grandit, à plus vous devez avoir des collaborateurs qui sont des directeurs généraux, qui sont des directeurs financiers, qui sont des directeurs commerciaux et c'est il y a tout un encadrement et puis après il y a l'ensemble des salariés et tout ça c'est il faut communiquer l'enthousiasme et là où vous voulez aller, et puis après les gens, bah, ils se débrouillent, ils font des belles choses eux-mêmes. Hein.
Donc ça serait juste de dire que finalement, vous avez pris de l'attitude avant de prendre de large, finalement.
C'est sympa de dire, oui, oui.
Ça vous décrirait bien.
J'ai pris de l'altitude avant de prendre de l'âge, oui. Oui.
Non, j'ai pas dit de l'âge, j'ai dit le large.
Ah, le large.
Le large. Les non, deux, les deux. Je me serais jamais permis.
Oui, j'ai pris de l'altitude avant de prendre le large, oui. Oui, oui. Absolument.
J'avais déjà commencé à vous poser la question, mais ça m'intéresse, donc je vais la poser directement. Vous dites que finalement, vous avez pas travaillé tant que ça au début, enfin avant d'en être le président à l'Armada, vous regardiez ça un peu d'un œil passionné, tout à l'air, mais extérieur. Donc ça s'est passé comment en fait? Un jour on vous a appelé un matin, on vous a dit Jean-Paul Rivière, c'est pour vous. Enfin, ça s'est passé comment?
Alors bon, j'ai toujours moi été un passionné de l'Armada. C'est oui. Que on a toujours loué 1, 2, 3 bateaux, mais mes sociétés ont toujours loué. Des bateaux à tous les événements parce que c'est avec enthousiasme que j'ai vu cette manifestation et mes collaborateurs ont toujours très bien organisé ça avec des clients qui venaient de toute la France et ça a toujours été très très profitable pour l'entreprise de louer des bateaux à l'Armada, donc c'est les soirées qui sont faites, hein, on parle des soirées. Voilà. Donc j'étais un fervent supporter de l'Armada et un jour Patrick Herr, dans un cocktail, m'a dit tu ferais bien un bon successeur pour l'Armada. Alors je l'ai regardé, moi j'avais même pas compris qu'il cherchait un successeur. Hein. Et donc bon bah de fil en aiguille j'ai accepté et voilà comment ça s'est passé. Moi je soyons honnêtes. Je n'étais pas historiquement un bénévole de l'Armada. Il y a des tas de gens qui en sont à 5-6 armadas de bénévoles. Oui. Je les admire. Moi, j'étais très pris par mes affaires et par ma passion de la mer. Mais par contre, j'étais un grand supporter, peut-être consommateur de l'Armada, on peut peut-être dire ça aussi comme ça. Et donc c'est Patrick Herr qui est venu me chercher, voilà comment ça s'est passé.
D'ailleurs, vous avez, je crois, vous avez 2 voiliers, c'est ça?
Oui.
C'est ça, donc en fait, vous participiez déjà à des événements avec le dernier, je crois, il me semble.
Ah, c'est pas... Oui, moi j'ai des voiliers assez rapides qui m'ont permis de faire des régates ou des courses croisières, quoi. Donc, j'ai participé plusieurs fois au voile de Saint-Tropez, par exemple. Hein. Mais c'est plus des événements qui sont festifs et très sympas, mais qui sont plus de l'ordre de la régate.
Merci beaucoup, Jean-Paul Rivière, de m'avoir accordé cet entretien. Un dernier mot. Vous diriez quoi aujourd'hui en vue de cet événement à quelqu'un qui n'a jamais pris le large et qui n'est jamais venu à l'Armada?
Je dirais que l'enquête de satisfaction, c'est à peu près 98% des gens qui sont contents de l'Armada et qui disent qu'ils vont revenir à l'Armada. Voilà. Donc, si quelqu'un n'est pas venu à l'Armada, bah, il faut venir.
Voilà.
Il faut venir. Voilà.
Ça. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un honneur. J'étais vraiment très heureux de vous recevoir.
Merci beaucoup. C'est moi. Merci.
Bon, bah voilà.